Bonjour, merci à Françoise pour l'invitation et puis le beau cours. Je lui disais que j'ai appris quelques petites choses parce qu'elle fait une revue très complète sur les tout derniers résultats. Donc moi-même, j'ai été mis au courant de certains résultats. Alors je vais vous parler ce soir de deux choses, de certains fonds cosmologiques, cosmiques. Je suis plutôt spécialiste de l'un d'entre eux dans l'infrarouge, mais je vais faire une toute petite revue dans la première partie, vu que c'était le titre que Françoise a proposé. Et puis dans une deuxième partie qui est liée, vous allez voir pourquoi, je vais vous parler des amas de galaxies à grand redshift, qui est mon nouveau dada et qui utilise en partie essentiellement les données de Planck pour détecter ces grandes structures. Et on va voir que ces amas de galaxies à grand redshift, c'est au-delà de 2, alors si vous connaissez les redshifts, ça veut dire en gros les 20% de l'histoire de l'univers en termes temporels à peu près, comment ces grandes structures, ces premières grandes structures nous éclairent sur plutôt l'astrophysique, un peu moins sur la cosmologie. On espère à terme qu'ils nous renseigneront sur la cosmologie, mais ce n'est pas encore complètement gagné. Alors, je travaille effectivement à l'Université Paris-Sud, qui va devenir d'ici peu l'Université Paris-Saclay. Et puis, je vous ai mis une belle image qui a fait la couverture de Astronomy and Astrophysics, qui représente les données brutes du satellite Planck en multicouleurs, les sept couleurs intermédiaires des fréquences Planck, et puis le fond cosmologique, qui a été l'objet de nombreuses études, et puis d'autres avant-plans, comme les amas SZ dont Françoise a parlé juste avant. Alors j'aime bien commencer mes cours et mes conférences, y compris à mes petits étudiants de L1 de l'université, par proposer une question qui est à la fois naïve et très profonde. Pourquoi la nuit est-elle noire? Alors vous en avez probablement certainement déjà entendu parler dans cette illustre salle et cet illustre lieu. J'ai oublié de préciser qu'une partie de mes diapositives seront en anglais. Je parlerai en français, à l'évidence, j'espère que ça vous dérange pas trop. Ça mélangera un peu le français et l'anglais, mais mon discours sera en français. Alors, on a des traces de ce questionnement philosophique, finalement, pourquoi la nuit est-elle noire, dès le XVIe siècle, XVIIe, etc. Il y a de grands auteurs, et non des moindres, Allais, qui s'y sont frottés. L'idée, c'est de dire, voilà, on a l'impression qu'il y a une infinité d'étoiles, alors, c'est une impression, évidemment, même si elles sont très lointaines, donc très très faibles, on ne les voit pas avec nos yeux. Et si on met une ligne de visée à n'importe quel endroit dans le ciel, peut-être que l'on tombera sur une étoile au bout d'un moment long, un temps long. Dès lors, si cette hypothèse est vraie, et vous verrez que ce n'est pas le cas évidemment, on peut s'attendre à ce que le fond de ciel soit vraiment constellé d'étoiles, mais vraiment chaque arc seconde carré soit constellé d'étoiles. Et donc le ciel devrait être clair, parce qu'il y a des étoiles, même si elles sont loin, au bout d'un moment, ça devrait nous arriver. Donc c'est connu historiquement sous le nom de paradoxe d'Olbers, parce que voilà, il est un petit peu réécrit. De nombreux auteurs, se sont, y compris des philosophes, des physiciens, etc., s'y sont frottés. Et il y avait toujours un paradoxe, un problème. Voilà. Les gens avaient l'impression qu'il n'y avait quand même pas une infinité d'étoiles, mais ils n'arrivaient pas à le démontrer. Alors le premier a donné une explication censée tout en ne pouvant pas la prouver, puisqu'il n'était pas physicien. C'est Edgar Allan Poe qui est poète, enfin qui est auteur, et qui en 1848 a le premier évoqué, pareil sans le prouver, que les astres n'ont peut-être pas une durée de vie éternelle. Il faut se souvenir que dans les siècles passés, la conception de l'univers était un univers éternel, statique, avec des objets éventuellement éternels. Enfin, les gens n'avaient pas vraiment les moyens de donner une finitude à la vie des objets. Et c'est Lord Kelvin, dans des conférences à la fin du 19e siècle, qui a prouvé que les étoiles n'étaient pas éternelles. Alors même s'il ne connaissait pas la nucléosynthèse, c'est-à-dire la fusion thermonucléaire qui a cours à l'intérieur des étoiles, parce que ce n'était pas connu, mais il a utilisé une conversion chimique, donc il s'est trompé d'un facteur 100, mais le facteur 100 suffisait pour démontrer que la vie des étoiles était finie, en tout cas un âge très faible par rapport à l'éventuelle éternité de l'univers. Donc c'est le premier à dire, il n'y a pas trop de problème, parce que les étoiles ne vivent pas très longtemps, donc la lumière ne s'accumule pas dans l'univers, donc il n'y a pas de problème de nuit noire, puisque la lumière ne s'accumule pas, donc il n'y a pas assez de photons, donc la nuit est noire, donc tout va bien. Donc fin 19e siècle, un peu comme pour la physique, avec la physique classique, l'apogée de la physique classique, tout allait bien dans le meilleur des mondes, la nuit était noire, il n'y avait pas assez d'étoiles, ou même s'il y en avait assez, elle ne durait pas longtemps. Arrive Edwin Hubble, vous connaissez aussi probablement l'histoire, donc l'expansion de l'univers, et puis d'autres aspects, des aspects théoriques, Einstein, l'abbé Lemaître, etc., qui montrent une expansion de l'univers. Et puis Gamow qui explique, qui reprend le fil à l'envers. Hein, vous avez donc cette expansion de l'univers, et puis quand vous remettez le fil à l'envers, il se dit, ben voilà, dans les temps passés, cette expansion provoque un univers beaucoup plus dense et donc chaud. Alors comme il est physicien, il se dit, ben, il doit y avoir un corps noir qui existe. L'univers a été tellement chaud et dense à un moment très reculé dans le passé. Il doit y avoir un corps noir, parce que équilibre matière-rayonnement, hein, dans les périodes très, très chaudes et denses, qui doit exister. Et donc, la nuit n'est peut-être pas noire, alors noire dans le visible, mais peut-être pas à d'autres longueurs d'onde, parce que si un rayonnement issu de cet épisode dense et chaud, il doit exister. Alors c'était le premier à le prédire. Il a été détecté par Penzias et Wilson en 64, publié en 65, avec ce fameux radiotélescope dans le New Jersey, chez les Bell Labs. Ils ont le prix Nobel quelques années plus tard pour cette belle découverte. Et vous avez ces deux articles fameux dans l'Astrophysical Journal de 65 où Penzias et Wilson montrent leurs mesures de ce rayonnement de fond. Alors je pourrais en parler des heures, mais voilà, on va faire vite ce soir. Et puis l'article d'autres collègues juste après qui dit ben voilà, ce qu'ils ont détecté, c'est une prédiction du modèle de Big Bang Show, et c'est le rayonnement cosmologique, donc CMB, Cosmic Microwave Background en anglais. Alors l'histoire se poursuit, donc la nuit n'est pas noire parce que le fond de ciel est baigné de rayonnements reliques. Alors, je ne sais plus où j'ai mis ça, voilà. Rayonnements reliques qui sont dus à l'histoire tumultueuse et longue de l'univers. Alors, le fond cosmologique qui est issu de ce Big Bang Show et puis qui est relâché au moment de la recombinaison, hein, il y a beaucoup de lumière avant, redshift à peu près 1100. Et puis, il y a aussi ce qui arrive après, c'est-à-dire toutes les galaxies, les étoiles, toute l'astrophysique dont on vient de parler précédemment et j'imagine les semaines d'avant, l'astrophysique des objets qui rayonnent de la lumière. Donc à la fois l'univers lui-même au moment du CMB, du fond cosmologique, et puis l'univers ultérieur, après en gros 370 000 ans, génèrent des rayonnements que l'on s'attache dès lors à détecter pour comprendre l'histoire de l'univers à travers ce rayonnement. Donc, le ciel est clair, c'est une manière un peu vulgaire de dire qu'il y a des rayonnements dans l'univers. Alors, ils ne sont pas forcément dans le domaine visible, mais ils sont à d'autres longueurs d'onde. Il y avait des arguments aussi pour dire que bien, le ciel peut rester noir parce que l'âge fini des objets fait qu'il n'y a pas une quantité invraisemblable de lumière qui se déverse dans notre univers, qui, même s'il est en expansion, pourrait le garder noir. L'expansion permet de diluer toute cette énergie, en fait ça ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est la faible densité d'étoiles finalement dans l'univers, qui fait que dans le visible, en tout cas, ça suffit à garder la nuit noire. Mais de manière globale, j'ai mis ici tout le spectre électromagnétique, si vous prenez en compte tout le spectre en énergie de rayonnement qui existe, en fait il existe des rayonnements reliques. Donc on en est là, la nuit n'est pas noire, elle est baignée de rayonnements qui nous renseignent sur l'origine de l'univers et tous les processus à l'œuvre pour former les grandes structures et les plus petites structures. Alors voilà une image vulgarisée de l'histoire de l'univers qu'on a un petit peu revisité avec Planck. Donc avec l'inflation cosmique dont on commence à avoir des contraintes assez fortes, en tout cas des contraintes, ce qui est déjà bien parce que quand même il se passe des choses à 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang, donc ce qui n'est pas rien. Alors les données de Planck notamment, mais d'autres expériences qui sont en cours, permettent de mettre des contraintes sur l'inflation cosmique. On cherche les fameux modes B, donc de polarisation, qui nous permettraient d'avoir l'échelle directe de l'inflation, mais alors ce n'est pas encore le cas, hein, c'était évoqué juste avant. Je pense que dans les prochaines années, enfin nous pensons que les prochaines années vont être extrêmement productives à ce sujet. Pendant les trois premières minutes, vous avez la nucléosynthèse primordiale, hein, voilà, l'hydrogène, etc. Le fond cosmologique est relâché parce que la température de l'univers est suffisamment basse. Voilà, le rapport nombre de baryons sur nombre de photons fait qu'il faut atteindre une température très basse pour que le rayonnement cosmologique puisse se libérer et se propager à peu près librement dans l'univers. En gros, son libre parcours moyen devient de l'ordre du rayon de Hubble. Vous avez les âges sombres, où vous avez de la matière neutre, et puis les premiers objets apparaissent. Donc, on pense que ce sont des premières étoiles, qui sont quand même déjà dans des structures, qui rayonnissent complètement l'univers. Et puis arrive cette période qu'on appelle voilà, la formation des structures, des grandes structures, et puis la formation et l'évolution des galaxies, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on a mis M. Planck, parce que c'était fait dans le cadre des résultats du satellite Planck. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un petit clin d'œil au spectre du corps noir de M. Max Planck. Et donc, on va s'intéresser à ce qui se passe dans cette zone-là, comment les grandes structures se forment et comment on peut l'observer directement ou indirectement. Alors l'outil qu'on a utilisé, qui s'appelle l'EBL, Extragalactic Background Light, donc rayonnement cosmique, si on veut, est particulièrement intéressant. Alors, ce n'est pas le seul, hein, y a plein d'autres outils. Ça a été évoqué précédemment, les oscillations acoustiques, les RSD, tout un tas, une panoplie aux cosmologistes qui est offerte pour comprendre ces structures. Mais le rayonnement global est un de ces outils. Alors, ce EBL, donc rayonnement extragalactique au sens large, est assez intéressant parce qu'il encode, c'est mon collègue Kaczynski qui dit ça en 2005, hein, il encode tout ce qui s'est passé, toute la production d'énergie qui s'est passée après la release du fond cosmologique à redshift à peu près de 1100. Donc on appelle ça le post-recombination universe, donc l'univers post-recombinaison. Donc tout ce qui se passe après génère de l'énergie lumineuse, alors il y a des ondes gravitationnelles, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, qui devraient se retrouver et qui se retrouvent et qu'on essaie de détecter. Ça concerne la formation d'étoiles, c'est surtout ça le moteur principal, mais la gravité aussi génère à terme des photons de plusieurs manières. Vous avez aussi des choses qui absorbent et qui réémettent, la poussière dans les galaxies. En gros, tout ce qui génère de la lumière sera détectable, nous l'espérons, et détecté pour l'étudier. Historiquement, il y a un fond qui a été particulièrement intéressant, qui est le fond infrarouge, CIB, Cosmic Infrared Background, donc le fond infrarouge, qui est proche du rayonnement optique et donc qui, traditionnellement, a été particulièrement étudié. Je vais en parler un petit peu. Donc, mesurer ces rayonnements de fond a été motivé pour comprendre la formation des structures. Alors voilà le résumé de ce que j'évoquais. Sur plus de 20 ordres de grandeur en fréquence observée ou en longueur d'onde observée, si vous préférez, voilà à quoi ressemble l'univers en termes de spectre en dehors de notre Voie lactée. On a soustrait les rayonnements de notre système solaire, la lumière zodiacale pour l'essentiel. On a soustrait l'émission de notre Voie lactée, la poussière interstellaire et toutes ses variantes. On a retiré aussi les amas de galaxies. Enfin bref, tout, voilà. On a retiré tout ça. Et voilà ce que vous pourriez observer si vous étiez sur un vaisseau interstellaire hypothétique, bien loin de notre galaxie. Alors c'est une brillance de surface. Hein, c'est une sorte d'intensité. Donc, vous avez le fond cosmologique qui domine. C'est en échelle log. Hein. Oui, alors vous voyez, chaque tiret a un facteur 10. Donc, le budget de photons dans l'univers est complètement dominé par les photons du fond cosmologique, hein, et de très loin. Il y a des facteurs 100 qui se baladent très facilement. Donc, vous connaissez peut-être l'analogie. Hein, si vous mettez une antenne radio, notamment les vieilles antennes TV, maintenant ça passe par l'Internet ou le câble, donc c'est plus le cas, mais si vous avez une vieille antenne TV qui se met sur un vieux tube, vous voyez un petit bruit sur vos écrans, bien, une fraction de ces photons provient du fin fond de l'univers et en particulier du fond cosmologique qui domine. Mais c'est recombinaison. Tout le reste provient de ces processus de formation et d'évolution des galaxies, noyaux actifs de galaxies, étoiles, poussière, etc. Alors vous avez le rayonnement radio le rayonnement radio qui en intensité, le chiffre qui correspond en bas, c'est une intensité dans cette unité barbare, un nanowatt par mètre carré par stéradian, mais vous pouvez juste regarder la partie relative. Qui en intensité est extrêmement faible, mais vous voyez bien que c'est. Enfin, vous voyez bien, je peux vous évoquer le fait que ce n'est pas l'intensité qui compte, hein, ce sont les processus physiques. Là, vous avez des processus en général non thermiques, des accélérations, etc. Et donc, c'est très intéressant pour suivre certaines structures. C'est évoqué dans le cours juste avant, vous pouvez détecter des choses de la rayonisation, etc. Donc, même si c'est faible, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a des zones qu'on ne connaît pas très bien parce que le CMB en fait, est tellement fort qu'on a du mal à voir ces rayonnements de fond. Donc en fait, on ne sait pas. Donc là, on a un peu interpolé. Il y a ce fond infrarouge qui domine. C'est une découverte récente que je vais évoquer. Il faut que je regarde l'heure aussi. Dans peu de temps. Qui domine, en fait, si vous résumez l'histoire de la formation et l'évolution des galaxies, c'est un photon infrarouge. C'est là où vous avez le plus d'énergie. Ensuite, vous avez le fond optique, Cosmic Optical Background. Donc là, ce sont les étoiles, tout simplement, qui rayonnent. Dans l'UV, on n'arrive pas à voir grand-chose parce que c'est très vite absorbé. Dès que vous avez un peu d'énergie, il y a un peu d'hydrogène partout dans l'univers, et donc c'est, même si c'est rayonisé, vous n'allez pas très très loin. Donc là aussi, on a interpolé. Et puis ensuite, vous avez des rayonnements dans les rayons X et dans les rayons gamma. Alors ça va encore à plus grande énergie. Et là, c'est dû aux sources compactes, à tous ces processus également liés aux sources compactes. Donc vous avez une vue d'ensemble de ce qui se passe dans l'univers. C'est une belle image, avec une variété de sources. Voilà, j'ai mis l'origine des sources qui peuvent être des galaxies, des noyaux actifs, des premiers objets, des lumières diffuses, ce qu'on appelle toute cette lumière extragalactique. C'est une belle image, mais elle est dégénérée. C'est-à-dire que ce n'est pas cette image ou ce rayonnement qui va vous dire « Ah ouais, mais là, un redshift de 2, il se passe une formation d'étoiles très intense, et puis ensuite, ça se calme, un redshift de 1 jusqu'à un redshift de 0. » C'est une émission intégrée. Donc à nous de nous débrouiller d'avoir d'autres traceurs, d'autres informations, d'autres croisements, d'autres corrélations croisées pour retracer l'histoire de ce qui s'est passé. Donc c'est formidable, mais c'est loin de suffire. Alors je vais quand même vous parler du plan après cette introduction où j'ai introduit les rayonnements cosmiques, j'ai évoqué pourquoi la nuit était noire, qu'est-ce que c'était que ce rayonnement extragalactique. Et là je vais aborder les aspects historiques de découverte de ce rayonnement extragalactique et puis un petit peu d'interprétation de ce que l'on en tire. Et puis dans la deuxième partie, je vais vous parler d'une partie de ces sources qui contribuent au fond infrarouge extragalactique, ce fameux CIB. Et ce sont les amas de galaxies à très grand redshift que l'on pense avoir détectés. C'est encore un travail en cours. Et je vais évoquer, dans l'essentiel du temps, une revue sur c'est quoi ces amas à grand redshift, pourquoi sont-ils intéressants. Et puis, dans la dernière partie, j'évoquerai comment nous, on pense les avoir détectés, ce qu'on est en train d'en faire. Et puis, j'évoquerai quelques perspectives avec Euclide et JWST, qui vont bien finir tous les deux par être lancés. Et puis, quelques conclusions et perspectives. Donc on continue avec le fond extragalactique, notamment l'aspect historique, que j'aime bien, parce que j'ai redécouvert ça il y a quelques années. On se retrouve il y a à peu près 50 ans en arrière, en 1967. Donc en 67, le fond cosmologique a été détecté depuis 2-3 ans. Enfin, il a été compris et détecté comme tel. En fait, il avait été détecté avant, mais les gens ne s'étaient pas rendus compte. Donc vous avez un travail notamment par Zeldovich, très connu en physique théorique. Et vous avez ici donc quelque chose qui ressemble à une fréquence, le fond cosmologique avec quelques petits points, des radiogalaxies, ça c'est une prédiction, et puis ce sont les premiers à se dire, les étoiles contribuent dans l'univers, pareil, c'est une brillance, par mètre carré, par stéradian, quelque chose d'équivalent. Il y a des étoiles qui sont présentes dans l'univers, donc on les met là à peu près, et puis il doit y avoir, dust. Dust, c'est la poussière dans la galaxie. Les premiers travaux avaient déjà identifié que dans les galaxies, il n'y a pas que des étoiles qui rayonnent dans l'UV et le visible, mais il y a des molécules interstellaires qui absorbent le rayonnement UV et visible, se réchauffent et rémettent tout dans l'infrarouge. Donc ça, c'est fort de voir que le tout premier travail, alors il y en a peut-être d'autres, si vous en connaissez d'autres, mais moi, c'est le premier travail que je connais, 67, qui évoque l'émission des galaxies en termes diffus, c'est-à-dire en termes complètement intégrés, et les premiers à dire il y a peut-être l'existence d'un fond infrarouge. Et ce sont les premiers à dire qu'il était beaucoup plus grand que le rayonnement visible. Alors, toujours en 67, Partridge et Peebles ont fait des choses un petit peu plus précises. Alors, dans ces graphes, on va devoir aller de gauche à droite et de droite à gauche, parce que certains représentent en longueur d'onde et d'autres en fréquence. Donc, tantôt le CMB à gauche, tantôt il est à droite. Vous repérez le CMB pour savoir qui est qui. Une petite gymnastique à faire, au bout d'un moment on s'y fait. Mais bon. Donc, le fond cosmologique est là. Ils ont mis tout un tas d'avant-plans qui nous gênent, que moi, je n'ai pas mis. C'est la lumière zodiacale, la galaxie, la Voie lactée, etc., que nous, maintenant, on connaît un petit peu mieux. Et à l'époque, ils étaient donc les premiers à le prédire. Et puis, ils se sont dit, quand même, 7A et 7B, ce sont des raies d'atomes dans toutes les galaxies. Donc, c'est une sorte de fond de galaxie. Ils se sont dit, ça doit être présent. Dès 67 aussi, on voit que les choses se mettent en place. Théoriquement, les collègues ont prédit la présence de rayonnement, même si les valeurs diffèrent. Alors en 74, ça c'est moi qui ai scanné ça de Jean-Loup Puget. Alors là, on est toujours en longueur d'onde. En 74, Puget a aussi fait des prédictions. Donc le fond cosmologique, avec éventuellement des distorsions qui à l'époque n'étaient pas mesurées. Donc il y avait encore la possibilité de mesurer quelques distorsions dans le fond cosmologique. Toujours des avant-plans, on appelle ça lumière zodiacale, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Et puis il a fait une prédiction un petit peu plus précise d'émissions de galaxies avec différents paramètres, selon que vous mettez un spectre un peu plus pentu ou pas. Et donc, ils ont prédit un fond infrarouge, non pas du même niveau que le fond cosmologique, mais quand même, toujours en log ici, hein, de manière quand même très notable, très intense. Je vous passe les histoires, et puis on était en 1974, il a fallu attendre deux décennies, il y a eu d'autres travaux, hein, je vous la fais courte, deux décennies, les données du satellite Kobe pour la première détection du fond infrarouge par l'équipe de Puget et al. À l'IAS à Orsay, dans les spectres de FIRAS de Kobe, dans les données publiques, et confirmé deux ans plus tard par l'équipe de Kobe, donc Derby et FIRAS, où l'enjeu était de soustraire les avant-plans, soustraire la Voie lactée, soustraire la lumière zodiacale, alors zodiacale en bleu, Voie lactée en rouge, parce que la lumière zodiacale est quelque chose comme 100 fois plus intense que le fond infrarouge que l'on cherche à détecter. Donc la moindre erreur de modélisation ou de soustraction vous met dedans complètement. Donc c'était très difficile. Donc 96, première détection. Voici l'état de l'art dans les années 2000, alors toujours un spectre, hein, intensité sur le ciel et puis ici en longueur d'onde. Ce qu'ont fait mes collègues Hauser et Ludwig, ils ont mis en jaune les zones d'incertitude. Alors les données ont augmenté, le Space Telescope a volé, etc. Il y a plein de meilleures données. Mais vous avez toujours des facteurs 10 qui se baladent dans certains domaines. La zone d'incertitude en jaune ici est un facteur 10. Alors pourquoi les gens se sont excités à mesurer ça? Parce qu'un facteur 10, dans les modèles d'évolution des galaxies, c'est beaucoup. Vous pouvez mettre beaucoup plus ou beaucoup moins de galaxies selon la barre que vous utilisez. Donc les collègues et les équipes ont vraiment cherché pendant un certain temps à réduire ces barres d'erreur, parce que sinon on faisait passer tout et n'importe quoi dans les modèles de galaxies. Alors c'était pratique, on faisait un peu ce qu'on voulait, mais c'était pas très contraignant. Dans les années, à la fin des années 2000, là il se trouve que c'est un de mes travaux, on a réussi à contraindre pour la première fois de manière très 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 forte à l'endroit du pic du fond infrarouge les mesures. Alors les données d'avant, elles étaient à peu près ici, donc il y avait des gros facteurs qui se baladaient, et nous, grâce au satellite Spitzer, on a vraiment contraint fortement. Et puis il y a cette image un peu célèbre pour ce domaine, qui est le spectre du fond cosmologique, le spectre du fond infrarouge et du fond optique, dont j'ai repris les résultats de la littérature, mais les données qu'on avait obtenues permettent de contraindre le pic de manière très, très efficace. Et pour la première fois, on a montré de manière vraiment dans les barres d'erreur très fines que le fond infrarouge était plus important que le fond optique. Alors on utilise une technique, je ne veux pas trop insister sur les détails techniques, mais c'était assez rigolo. C'est du stacking, hein, qui est une méthode qui est devenue très à la mode dès lors. On a juste pris des galaxies qu'on observait à 24 microns et qui n'étaient pas détectées aux autres grandes longueurs d'onde à cause de la confusion. Et en utilisant une méthode de corrélation, hein, d'empilement, de stacking, on a utilisé à peu près 20 000 galaxies. Au début, vous ne voyez rien à 70 et 160. Et quand vous accumulez, ici, c'est le nombre de galaxies qu'on a accumulées, ben, à la fin, on a une détection très très claire. Il suffit de diviser par le nombre de galaxies qu'on a mis à la surface, et pof, on obtient le niveau du fond infrarouge. Donc c'était à la fois simple, rigolo et de bon goût, on a fait ça, donc on était très content d'avoir obtenu cette mesure. Et puis plus récemment, ça c'est toutes les revues de mes collègues, on a une vue un peu contemporaine un petit peu plus précise, parce que dans chaque domaine de longueur d'onde, avec les missions spatiales notamment, on a vraiment amélioré les mesures, même si dans le domaine, alors là c'est un zoom, vous voyez peut-être pas très bien, mais dans le domaine optique et proche infrarouge, il y a toujours des petites controverses. Mais les rayons gamma, l'absorption, les rayons X, etc., ont permis de beaucoup mieux contraindre ce rayonnement extragalactique. Donc maintenant, on pense que les mesures sont assez bonnes, même s'il y a toujours des incertitudes, hein, des barres d'erreur. Mais il n'y a plus vraiment d'équipe qui travaille sur ce genre de sujet. Maintenant, les collègues s'intéressent à étudier la structure du fond. C'est quoi la structure? C'est que vous avez, je ne vous ai pas mis d'image, mais ce rayonnement n'est pas complètement isotrope. Il est composé de fluctuations qui sont dues aux structures qui créent ces rayonnements. Et donc, étudier les fluctuations permet de beaucoup mieux contraindre l'histoire de ces structures, de la formation de ces structures. Donc, les gens commencent depuis très longtemps à regarder ces fluctuations. Alors, voici deux résultats un petit peu emblématiques du fond infrarouge, de l'étude des fluctuations du fond infrarouge par l'équipe Planck ici, puis par l'équipe de Guylaine Lagache en haut. Alors, vous ne le voyez pas en détail, mais en gros, ce sont des spectres de puissance angulaire sur le ciel en corrélant différentes longueurs d'onde. Et ce qu'il est important de retenir dans ce graphe, c'est juste que vous avez des données en noir et puis un ajustement en rouge. Et cet ajustement est dû à la somme de modèles qui prennent en compte des halos de matière noire différents, donc en gros des corrélations à grande échelle, et des halos et des galaxies à l'intérieur d'un seul halo. Et donc on arrive avec des modèles à reproduire parfaitement ce que l'on observe, et donc on a l'impression de voir que la formation des structures, en gros entre redshift 0 et 3, hein, c'est cette zone que l'on sonde avec le fond infrarouge Planck, se comporte comme les modèles, et on peut donner des contraintes ici. Alors ici c'est la masse des halos, et ici c'est le redshift, et en inversant, donc vous avez ce modèle, vous inversez et vous obtenez finalement comment les structures préférentiellement évoluent pour créer ce fond infrarouge, depuis un redshift 4 jusqu'au redshift d'aujourd'hui, en termes de masse, hein, où l'essentiel de la formation d'étoiles se produit dans ces structures. J'ai peut-être omis de dire l'essentiel, c'est que le fond infrarouge est dominé par la formation d'étoiles à tous les redshifts. Donc quand vous formez des étoiles, de manière enfouie, vous formez du fond infrarouge. Donc ce travail de ses collègues montre que pour former des étoiles, vous êtes préférentiellement dans ces types de halos. Alors à grand redshift, vous êtes dans les halos massifs, voilà, qui vont à la fin, à redshift 0, donner 10 puissance 14 ou plus, mais à redshift modéré, 2 ou moins, vous êtes dans des halos de plus en plus petits, parce que les gros halos, en gros, ont fait le job, ils ont formé beaucoup d'étoiles, et ils n'ont plus forcément beaucoup de gaz disponible, et donc vous shiftez vers des plus petits halos à bas redshift. Et j'ai encadré cette zone, parce que c'est cette zone qui va nous intéresser, pour essayer de trouver les structures qui forment bah, toutes ces étoiles, et qui, à la fin, vont former des amas de galaxies très massif. Alors là, je vous ai fait une petite revue juste pour la partie infrarouge et un petit peu optique. Il faut savoir qu'il existe une quantité de littérature invraisemblablement riche et grande sur d'autres longueurs d'onde, les X, les gamma, la radio, avec des ballons, des fusées sondes, etc. Voilà, j'ai pris ce parti de vous montrer que l'infrarouge que je connais mieux, mais il faut savoir qu'il y a une littérature très abondante. Alors j'aborde la partie 2 qui est maintenant essayons de trouver des structures à grand redshift. Alors on en connaît beaucoup, hein, les galaxies maintenant jusqu'à des redshift 9, alors peut-être 10, je n'ai pas suivi les derniers travaux. Mais en termes d'amas de galaxies, c'est un petit peu plus contrasté parce que les amas de galaxies sont des bouées, j'aime bien cette analogie, des bouées qui nous disent là il y a de la matière, là il se passe quelque chose. Ce sont les plus grosses structures. Alors voilà une image du ciel, telle qui est prise par le Hubble Space Telescope, de manière très récente, hein, quand vous observez une zone du ciel où il n'y a pas grand-chose. Vous avez beaucoup, beaucoup de galaxies qui ont différentes couleurs, y compris des galaxies rouges, là, qui sont très, très lointaines. Voilà, vous avez plein de galaxies, voilà, on arrive à les mesurer. Maintenant, si vous observez avec le même Space Telescope dans un amas de galaxies, voilà ce que vous avez. Ça, c'est un amas de galaxies qui est relativement proche. Hein. Vous avez une quantité de matière baryonique incroyablement élevé, hein. Vous avez, alors je ne sais plus combien ça pèse, avec la matière noire, 815 masse solaire ou 14, je ne me souviens plus de la masse de cet amas, qui est réparti à peu près de cette matière-là, hein, essentiellement de la matière noire, des baryons chauds, et puis un tout petit peu, tout ce que vous voyez, en fait, c'est rien, c'est 5% ou moins, hein, ce sont les galaxies qui sont là, avec des jolis effets de structure d'Einstein, hein, des anneaux d'Einstein qui sont dus au lentillage gravitationnel fort de sources d'arrière-plan, et puis il y a plein de lentillages faibles, mais là, on ne le voit pas nécessairement. Donc les amas sont des grosses structures. Voici aussi une belle image qui a été évoquée dans les cours précédents, hein, avec en coloré le gaz chaud, et donc vu dans les rayons X, là où l'essentiel des baryons sont, et puis l'image qui représente les galaxies. Ça, c'est rayons X et domaine visible. Là, ce sont des amas vus dans le millimétrique, avec l'effet Soniev-Zeldovich, c'est-à-dire que vous prenez de la lumière du fond cosmologique qui vous arrive de derrière, qui arrive dans le gaz chaud des amas de galaxies ici, et par un effet Compton inverse, les photons du fond cosmologique sont accélérés, enfin en tout cas gagnent de l'énergie, et c'est pour ça qu'à certaines longueurs d'onde, dans le fond cosmologique, on les voit en brillant, ça c'est dans Planck, et puis avec, je crois que c'est SPT ici, on les voit en sombre, parce qu'on a une longueur d'onde un petit peu plus décalée, mais en tout cas, on voit des sources ponctuelles, qui sont les amas de galaxies, dans le fond cosmologique, donc c'est très facile de les voir, et ça, on mesure voilà, la masse assez directement, même si il y a des controverses, même si c'est très compliqué. Et alors avec SPT, ils vont à des redshifts, ben, je ne le montrerai pas, mais ils vont à des redshifts assez conséquents, avec Planck, on s'arrête à peu près à 1. Alors, Planck a donné ses tout derniers résultats récemment, hein, Planck 2018, avec des paramètres cosmologiques, des incertitudes qualifiées, plutôt faibles, avec voilà, un camembert cosmique. Et ça nous aide à poser le décor, en quelque sorte. Les paramètres cosmologiques, même s'il y a des tensions qui ont été évoquées, finalement, je ne les aborderai pas aujourd'hui, Ça pose le décor, on a des constantes de Hubble, on a des sigma 8, des oméga m, etc. Et ça nous permet de dérouler un modèle et de voir comment les autres données se comparent avec ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut défier, qu'est-ce qu'on peut prouver, voilà, ça va être ça le but. Alors parmi les questions qui se posent, étant donné ce contexte, il y a une question un peu fondamentale qui est ici la fonction de masse. Vous avez la masse des structures, en log ici, le nombre des structures et la masse ici, la masse totale. Et vous avez en symbole des données qui proviennent de différents surveys, et puis en coloré différents modèles et différentes simulations. En gros, hein, ça fait une courbe un petit peu comme ça, arrondie. Soit, c'est ce qu'on observe et c'est ce qu'on prédit. Manque de peau, ce qui est disons prédit par les halos de matière noire ou le rapport universel de baryon dans l'univers, c'est cette droite. Donc on essaie de comprendre comment de cette droite on arrive dans les galaxies à avoir quelque chose de courbé. En gros, quels sont les processus physiques qui font qu'à petite masse, il y a quelque chose qui fait que ben, les galaxies ne sont pas assez nombreuses pour retomber sur la fonction de masse de matière noire. Et qu'est-ce qui fait qu'à très grande masse, pareil, il y a un déficit, il y a moins d'amas voilà, par rapport à ce qu'il devrait y avoir si on avait tout été scalé de la même manière que les halos de matière noire. Alors c'est une question qui est très très ancienne, hein, qui est toujours d'actualité, mais il y a plein d'explications qui existent. Les effets de rétroaction, différents effets de rétroaction, voilà, en fonction de la masse, les AGN, etc. Les amas de galaxies, comme ici on est à grande masse, peuvent donner une réponse, et en particulier une réponse à grand redshift, parce que là on peut sonder les halos assez facilement à grand redshift, parce qu'il suffit de trouver un amas pour savoir que c'est un halo massif. Donc je vais m'intéresser aux amas de galaxies, plutôt à grand redshift, pour essayer de donner des contraintes, même si à ce jour, moi en tout cas, je n'en donne pas. L'état de l'art sur les amas de galaxies est bien représenté dans cette revue de Overseer, qui est très bien faite en 2016. Il a représenté, en fonction du redshift, jusqu'à 8, les amas connus. Connus ou supposés, parce que les structures à très très grand redshift sont quand même difficiles à mesurer. Alors il a mis plusieurs symboles les amas rouges sont les amas détectés en rayons X qui s'arrêtent assez tôt en redshift. Il y a les amas Planck et SPT qui sont détectés par effet Soniev-Zeldovich, donc qui vont jusqu'à vers 1 pour Planck et puis 1,5 pour SPT parce qu'il a une résolution angulaire à peu près 4 ou 5 fois meilleure que Planck, donc ils arrivent à détecter des amas plus lointains, parce qu'il y a moins de dilution. Et puis, toutes ces autres structures sont ce qu'on appelle des high redshift clusters, donc des galaxies à grand redshift, ou des proto-amas de galaxies. Alors, il y a des débats sur qu'est-ce qu'un amas et qu'est-ce qu'un proto-amas. J'ai même co-organisé des conférences sur qu'est-ce qu'un amas et qu'est-ce qu'un proto-amas. Alors, il n'y a pas vraiment de consensus, mais en gros, pour faire simple, eh ben, ça tombe bien, c'est la slide d'après. Les proto-amas de galaxies, c'est tout ce qui va à la fin devenir un amas. Alors j'ai mis plusieurs, enfin c'est pas moi, c'est Muldrow 2015 qui a mis plusieurs lignes. La colonne de gauche c'est redshift 2, milieu redshift 1 et aujourd'hui redshift 0. Et vous voyez que ce qui va à la fin donner un amas de grande masse, hein, 15.4 en log de masse solaire, en fait quand vous allez dans le passé, c'était une grande structure qui avec le temps évidemment s'est effondrée dans le puits de potentiel que fait cet amas. Donc cet amas que l'on voit aujourd'hui à z égale 0 était en fait une très très grande structure. Alors je ne sais plus si on a mis la taille, oui c'est ça, genre 40 mégaparsecs, c'est quand même pas rien. Et c'est ce qu'on appelle un proto-amas, c'est-à-dire une structure très diffuse qui à la fin va donner un amas. C'est très difficile à observer, parce que les galaxies ne nous disent pas dans 8 ou 10 ou 12 milliards d'années, je vais être dans tel amas. C'est à nous débrouiller tout seuls comme des grands. Donc plus l'amas est massif, plus c'est facile, entre guillemets, et plus les amas sont de masse intermédiaire, 10-14, ça commence à être un peu faible, les structures sont moins étendues, mais il est difficile de savoir lesquelles vont devenir à la fin dans un amas. Ce sont évidemment des simulations, et les points représentent ici les galaxies, elles ne représentent pas le halo et la matière noire, parce que ce qu'on observe, c'est la galaxie. Donc voilà pourquoi ces amas sont intéressants, et puis il y a aussi une grande question qu'on essaie de comprendre, c'est comment se forment ces amas. Alors j'aime beaucoup ce graphe, qui est adapté de Dekel et Birnbaum il y a quelques années. Ça représente la masse des structures que vous avez à un certain redshift en fonction du redshift. Et puis, donc, si vous prenez une structure, elle gagne en masse parce que progressivement, elle mange, elle accrète ses voisins. Donc c'est pour ça que vous avez ces lignes théoriques qui sont prévues. Et puis les données, toujours, hein, les amas existants, et puis quelques amas existants qui sont là. Mais ils ont mis plusieurs zones, parce que pour créer des amas, évidemment, vous accrétez des halos de matière noire, mais vous avez des galaxies à l'intérieur. Et puis ces galaxies, elles, leur fonction, en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi, leur fonction, c'est de prendre du gaz baryonique froid et de former des étoiles, et puis de passer à autre chose. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'observer. Alors, les modèles théoriques vous disent que quand vous êtes en dessous de 10-12 masses solaires, à peu près, autour de vos puits de potentiel, vous avez du gaz froid, de baryon. Donc, le gaz froid, c'est facile, il peut se condenser sur les galaxies et puis former des étoiles. Je résume de manière outrancière tous des processus physiques non linéaires extrêmement complexes. Mais c'est un peu l'idée. Quand vous êtes dans ce triangle un petit peu, cette zone à droite, vous avez du gaz froid, pense-t-on, qui arrive à s'insérer dans dans un milieu chaud qui est déjà le milieu chaud des amas de galaxies, parce que vous avez déjà un fort pic potentiel. Mais vous arrivez quand même à alimenter les galaxies qui peuvent former des étoiles. Et puis, dans cette zone ici, hot, on pense que le milieu est tellement chaud qu'en fait, vous ne pouvez plus vraiment former des étoiles dans les galaxies de ces amas. Donc là, c'est la partie astrophysique, pas cosmologique, mais la partie astrophysique des amas de galaxies qui est très intéressante parce qu'on voudrait essayer de suivre l'évolution des amas en fonction du redshift et des processus physiques des galaxies dans ces amas pour savoir si vraiment là, elles forment beaucoup d'étoiles grâce au gaz froid qui les alimente. Et est-ce que tout est stoppé là, finalement? Est-ce que les galaxies sont finalement mûres? Elles n'ont plus de gaz froid qui les alimente et donc elles vieillissent et puis elles viennent rouges et vieilles comme on les observe ici aujourd'hui à bas redshift. Alors il y a toujours des galaxies qui forment des étoiles mais elles sont à la périphérie et ça compte pour pas beaucoup par rapport à la masse totale. Donc c'est ça qu'on essaie de comprendre, la formation des grandes structures, la formation d'étoiles dans ces grandes structures parce que ce sont des processus physiques assez intéressants à étudier et qui ont été étudiés pour la formation stellaire à petite échelle. Donc on essaie de voir si les processus qu'on a à peu près compris s'appliquent aussi à très grande échelle. Et donc nous, on va s'attacher à observer cette région entre un redshift d'à peu près 1,5 jusqu'à 3, d'abord parce que c'est plus facile de faire ça entre 1,5 et 3 qu'au-delà, mais surtout, on est dans cette zone de transition. C'est que pour une masse donnée, selon le redshift, vous pouvez toujours former des étoiles, puis à un moment, vous êtes tellement chaud que pof, ça s'arrête. Donc on voudrait essayer de voir comment les galaxies forment des étoiles dans ces structures. Est-ce que ça s'arrête, comme prédit ici, ou est-ce que non? Est-ce que ça dépend de la masse, etc. Alors par ailleurs, on connaît déjà beaucoup de choses. On sait que, voici le redshift et la densité de formation d'étoiles, donc par mégaparsec cube, ça c'est la fameuse revue de Maddow et Dickinson, tout ça est toujours en log, on sait que, ça a été observé depuis des décennies maintenant, que le pic de formation d'étoiles dans l'univers est à peu près un redshift 2, c'est-à-dire 10 gigaheures dans le passé. On appelle ça le cosmic noon, donc le midi cosmique, midi au sens où c'est là où l'univers, vraiment par mégaparsec cube, formait énormément d'étoiles. Conséquemment, quand vous formez des étoiles, la masse stellaire, elle augmente. Plus vous formez d'étoiles, plus vous transformez le gaz froid en étoiles. Et puis, comme vous êtes ici au maximum, après, vous êtes un petit peu moins efficace. Donc la masse stellaire augmente toujours, mais moins fortement que quand vous êtes sur cette partie-là. Donc on essaie de voir, avec les amas de galaxies, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est plus efficace, moins efficace que ces données qui proviennent de galaxies un petit peu aléatoires, donc on appelle ça des galaxies de champ, où il n'y a pas forcément de densité qui est prise en compte? Il y a quand même eu beaucoup de travaux dans le passé. Ici, je présente toujours la formation d'étoiles, la densité de formation d'étoiles en fonction du redshift, mais pour des structures qui sont des proto-amas de galaxies. Alors vous avez ici la formation d'étoiles standard qui provient du graphe d'avant, qui est ici, le cosmic noon, donc voilà, en fonction du redshift. Là, c'est tout ce qui se passe pour des grands ensembles de galaxies, donc ça a été représenté ici. Et là, des proto-amas de galaxies. Alors évidemment, la zone est plus petite, mais la densité de formation d'étoiles dans ces zones est des ordres de grandeur supérieurs. Donc ce sont des objets intéressants à étudier pour voir si vraiment le gaz froid arrive comme on croit qu'il arrive, etc., ce que je viens d'évoquer. Donc nous, on va cibler cette zone-là, donc il y a déjà plusieurs travaux qui existent. Alors, toujours pour avancer dans les prédictions théoriques, il y a des collègues qui ont prédit le fameux Maddow-Dickinson, Lilly plot, donc toujours le redshift entre 0 et 7, et on va regarder que celui du haut pour aujourd'hui, qui est toujours la densité de formation d'étoiles. Vous avez le total qui est ici en noir, et ce qu'ils ont fait avec leur simulation, ils se sont dit, quelle est la fraction d'étoiles créées dans ces fameux proto-amas de galaxies ou amas de galaxies? Parce qu'après tout, si c'est négligeable, on s'en fiche. Et ils ont montré que vers le cosmic noon, donc le midi cosmique, vers z égale 2, eh ben, ce n'est pas négligeable, en fait, vous avez la fraction ici. C'est quelque chose comme 10-20%. Et puis, à très grand redshift, c'est la moitié. C'est-à-dire que la moitié de la formation stellaire à grand redshift a lieu dans ces structures. Donc si on veut un peu comprendre ces histoires de gaz froid, gaz chaud, de formation stellaire, les amas de galaxies ou leurs progéniteurs sont des zones particulièrement intéressantes à regarder. Et toujours, on va s'intéresser à cette zone-là. Alors, les scénarios qui émergent sont les suivants. J'ai pris deux articles de la littérature, mais ils se ressemblent, hein, donc on va prendre celui du haut. Vers un redshift à peu près de l'ordre de 3, vous avez la phase de croissance, donc les galaxies bleues, elles forment beaucoup d'étoiles, vraiment à fond. Et puis, tout ça se met dans des halos qui fusionnent. Entre redshift 2 et 3, tout ça fusionne et vous commencez à avoir des grosses galaxies rouges qui ont arrêté leur formation stellaire, les fameuses galaxies les plus brillantes du centre des amas. Vous avez encore un peu de formation stellaire, c'est un petit peu réparti, mais ça commence à s'éteindre dans le centre. Vous commencez à épuiser le gaz disponible. Et puis, en dessous de 2, là, vous arrivez à une image que l'on connaît des amas à plus bas redshift, où au centre de l'amas, il ne se passe plus grand-chose en termes de formation stellaire, mais vous avez des galaxies massives, rouges et vieilles et mortes. Et puis la formation stellaire a toujours lieu, mais dans des plus petites structures, comme on l'a vu, en termes de masse, et puis à l'extérieur. C'est à peu près pareil dans le schéma dessous. Voilà, c'est très attrayant, c'est étayé par plusieurs types de données, mais voilà, c'est basé sur un exemple, et là, c'est une prédiction théorique, donc il y a de quoi faire. Alors, l'état de l'art en termes d'observation, parce que moi, je suis plutôt côté observation, c'est qu'on a détecté déjà pas mal de grandes structures, et les équipes françaises sont plutôt bien placées, parce que quasiment tout ce que j'ai mis ici provient d'équipes françaises, d'Île-de-France en général. Donc là, il y a l'équipe du CEA qui a détecté un superbe amas à redshift 2.5 qui forme énormément d'étoiles, détecté avec Herschel très facilement. Enfin, voilà, c'est une très belle structure. Vous avez les travaux de Simona Mehi à l'Observatoire aussi qui a détecté plusieurs structures autour de radiogalaxies à redshift 2. Ça, ce sont d'autres équipes qui détectent grâce à l'émission submillimétrique et puis ALMA, ouais, il y a des images ALMA absolument extraordinaires, redshift de 4. Là, vous avez aussi une équipe CEA et chilienne qui a aussi détecté un autre amas à z égale 2. Mais alors, cet amas, il est déjà très mûr, il forme quasiment plus d'étoiles. Donc, vous voyez, on a aussi un bestiaire, une zoologie d'amas. On peut dire, c'est simple, au-delà de z égale 2, il n'y a que des amas en formation qui forment des étoiles, tout va bien. Ben non, celui-là ressemble, à s'y méprendre, à un amas très vieux, comme s'il en existe à z égale 0,3, à peu de choses près. Hein. Donc c'est ça qui est à la fois rigolo et compliqué. Là, l'équipe plutôt de l'IAP, ou en radio aussi, avec l'Australian Telescope Compact Array notamment, ont détecté des réservoirs géants de gaz moléculaire froid autour d'amas. Je crois que c'est ce qui est bleu ou rouge, je ne sais plus trop. Des réservoirs géants, tout comme, alors il y a d'autres travaux par l'équipe du CEA, hein. Où ils détectent des quantités invraisemblables de gaz froid. Donc ça corrobore un petit peu ce scénario, mais qui reste à consolider. Et puis là, d'autres travaux aussi, à z égale 2. Alors, il y a toute une littérature très abondante. J'en ai ici mis quelques-uns. J'ai presque tout lu, voilà, mais je ne veux pas passer une heure et demie à vous raconter ça. On peut en tout cas classifier les amas à peu près en trois grands groupes en termes de détection. Les premiers, ce sont les amas détectés typiquement dans le visible et l'infrarouge proche, qui sont dominés par la masse stellaire, donc ce sont des vieilles galaxies, des galaxies elliptiques, et qui sont détectés en gros par surdensité, voilà les techniques classiques. Vous avez dans les rayons X ou le millimétrique, avec l'effet Soniev-Zeldovich SZ, la détection d'amas par le gaz très chaud, donc une vue directe de la masse. Et puis, des choses émergentes, qui sont une détection d'amas par un fort taux de formation d'étoiles. Donc là, vous biaisez vos amas vers des amas jeunes en train de se former. Et l'idéal, c'est d'avoir les trois, c'est ce qu'on essaie de faire, parce que chaque observation vous biaise d'une manière ou d'une autre. Le principal, c'est de connaître votre fonction de sélection. Et pour cela, vous utilisez les domaines submillimétriques, le domaine radio, et puis parfois l'infrarouge, alors infrarouge proche, moyen et lointain. Et c'est là-dessus que, avec le satellite Planck, j'ai essayé de détecter ces structures. Alors, Planck est surtout connu pour ses résultats sur le fond cosmologique, avec cette toute dernière image qui date du mois de juillet, avec cette fameuse image du fond cosmologique qui est extraordinaire. voilà, en termes de sensibilité, donc en température, mais pas que, en température, en polarisation, et puis avec une analyse statistique, on arrive à reconstruire le potentiel de matière noire avec le CMB lensing sur tout le ciel, modulo, enfin, sauf les zones où on ne peut pas le détecter, qui sont grisées ici. Mais Planck a aussi fourni 9 images extraordinaires du ciel, millimétriques et centimétriques, entre 30 GHz et 857 GHz, donc ondes radio et ondes submillimétriques. Et avec ces données, vous pouvez détecter tout un tas de choses, la Voie lactée, des amas de galaxies, etc., et potentiellement des amas de galaxies lointains. Alors peut-être que depuis tout à l'heure, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec ces amas et ces fonds infrarouges? Le lien est ici. On s'est dit, pour trouver ces structures à grand redshift, où va-t-on chercher? On va chercher là où il y a le plus d'énergie, où c'est le plus facile. Vous savez, les scientifiques sont... Enfin, en tout cas, moi, c'est pas qu'on n'est pas paresseux, mais on essaie de maximiser le retour scientifique. Donc, on commence par le plus facile, et si ça marche pas, on va vers le plus dur. Alors, le plus facile, c'était... Façon de parler, parce qu'aller dans l'infrarouge lointain, c'est compliqué. Il faut un satellite voilà, Planck qui était quand même compliqué à faire et qui est couronné de succès. On s'est dit, on va aller là où il y a plus d'énergie, sur le fond infrarouge. Et dans ce fond infrarouge, on va regarder les fluctuations. Et là, mes collègues de Planck ont fait un travail extraordinaire. Ils ont prouvé que là où il y a du fond infrarouge, donc pareil, ils ont stacké, ils ont fait du stacking, donc de la corrélation. Ils ont pris les points brillants du fond infrarouge ici. Donc là, c'est fait sur, alors je ne sais plus combien, 20 ou 100 000 points, je ne me souviens plus. Ils ont dit, on va empiler les zones où il y a de l'émission infrarouge et on va voir quelle est la masse grâce au CMB lensing, vous savez, la carte de matière noire que je vous ai montrée. Et on voit qu'il y a une corrélation. Ils ont prouvé que le fond infrarouge est corrélé avec des pics de masse dans la carte de matière noire. Ils ont aussi montré que quand vous n'avez pas de fond infrarouge, ils ont opportunément codé ça en bleu, vous n'avez pas de masse, vous avez des trous en quelque sorte. Donc en gros, et puis là c'est un null test, en gros, là où il y a du fond infrarouge, vous avez de la masse, et il se trouve par ailleurs que le fond infrarouge trace la formation stellaire. Donc on nous a servi sur un plateau, enfin voilà, la nature nous sert sur un plateau. Allez chercher les pics de fond infrarouge, vous trouverez les zones les plus intenses de formation stellaire dans l'univers. Alors ça, on le sait depuis quelques années, mais ça a été reprouvé vraiment brillamment avec cette technique. Alors c'est ce qu'on a fait. Avec Planck, on a cherché, l'équipe de Toulouse qui a fait ça, les points froids du fond infrarouge. Vous avez l'image du ciel Planck où on s'est cantonné aux hautes latitudes galactiques. On a trouvé à peu près 2000 zones qui montrait un fond infrarouge très brillant à petite échelle, hein, pas sur des grandes échelles, parce qu'on pense que ce n'est pas des amas, mais à des échelles commensurables avec des amas. Ensuite, j'ai piloté un programme sur le satellite Herschel où on a obtenu 10% de suivi. On avait à peu près 200 sources. Alors, je ne vous raconte pas, c'était très compliqué parce que Planck et Herschel avaient une durée de vie limitée à cause du cryogène, etc., parce qu'il y avait des instruments refroidis très très bas, 0,1 Kelvin à peu près et 0,3 Kelvin pour Herschel. Et donc, il fallait, en même temps qu'on analysait les données de Planck, envoyer des coordonnées à Herschel pour qu'il nous les observe, passer les programmes d'observation, etc. Bref, on a réussi. On a obtenu 200 sources et, exceptionnellement, tous nos champs Herschel montrent des galaxies. Alors, ce sont des images en fausse couleur avec des contours qui vous donnent les surdensités. On obtient des surdensités de galaxies rouges Herschel comme aucun autre survey n'en a proposé. Donc on s'est dit, on tient bien là une bonne piste pour trouver des structures à grand redshift. Alors voilà un zoom sur une de ces structures. Voici une image en fausse couleur d'Herschel qui a une résolution bien meilleure que Planck, avec des contours. Et puis on va zoomer sur une de ces zones ici avec un autre satellite, Spitzer, auquel j'ai eu la chance de travailler plusieurs années aux États-Unis. Et donc là, vous gagnez un facteur quasiment 100 par rapport à Planck et vous voyez une concentration de galaxies. Le contour représente les surdensités. Et maintenant, on sait que certaines de ces structures sont à des redshifts de l'ordre de 2. Je vais en parler dans un instant. Alors, statistiquement, comment se compare notre survey Herschel à gauche par rapport aux grands surveys qui ont été faits sur les amas de galaxies proches ou les relevés les plus profonds ici, hein, c'est David Elbaz qui a obtenu ces données dans un champ profond. C'est à peu près la même échelle de taille et d'intensité. On voit que nos champs sont très, très surdenses en galaxies brillantes, contrairement aux zones proches des amas. Par contre, les relevés profonds ont beaucoup plus de galaxies, mais ce sont des galaxies faibles, puisqu'elles ont tendance, en général, à être très très lointaines. Donc on a vraiment une surdensité de galaxies ici. Là aussi, une autre densité. Vous voyez, vous avez plusieurs galaxies Herschel ici qui sont très très brillantes. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est au-delà de 100 Mili-Jansky, c'est vraiment très très brillant. Et on a eu du temps ALMA qui nous a permis de voir ce qui se passait. Et on a toute une ribambelle de galaxies. Alors on ne sait pas encore trop ce qu'elles sont. mais il y a plein de galaxies. On pense qu'il y a plusieurs redshifts qui se superposent, hein. On pense qu'il n'y a pas qu'une seule structure. Et néanmoins, il y a une structure qui a un redshift supérieur à 1,7, je crois, de mémoire. Je vais passer cette diapositive. Voilà. On a aussi une autre structure, la vue en optique par le télescope Canada-France-Hawaï, où on a des contours Herschel, et les points rouges sont des structures à un chiffre de 2, donc vous vous rappelez, hein, voilà, 20% de l'âge de l'univers, et puis en bleu, enfin, ou cyan, redshift 1,6. Donc là aussi, on a une double structure à différents redshifts. Alors on se demande, est-ce que ce sont des structures qui sont un peu connectées via des filaments, hein, comme ça a été évoqué les semaines d'avant ? On ne sait pas encore. On sait juste que ça forme énormément d'étoiles et que c'est à des redshifts conséquents. Donc là, il y a beaucoup de travail en cours. Et puis, je vais présenter un ou deux derniers résultats avec la spectroscopie millimétrique. Et on essaie d'utiliser tout ce qu'on peut. Voici l'image Herschel de notre source. Voici l'image Spitzer, mais surtout les raies. Alors, je vous la fais courte. On a un redshift de 2,55 avec deux raies de CO. Et on arrive à voir donc, que ces structures sont vraiment les galaxies sont confirmées à très grand redshift, ce qui est pour nous une belle avancée. Et là aussi, on va essayer de publier ça, une structure à encore plus grand redshift. Donc si on met de manière préliminaire, c'est mes collègues, hein, Clément Martinache, etc., qui font ça. Vous rappelez, taux de formation d'étoiles en densité en fonction du redshift, vous avez la littérature qui donnait des sources qui forment beaucoup d'étoiles, et puis là, les galaxies standards. Donc, à confirmer, hein, si le redshift est... Enfin, on a un redshift confirmé, mais on doit encore consolider ça, mais on se situerait, pareil, dans des zones communes à d'autres structures. Les ordres de grandeur sont à peu près bons. On a aussi l'imagerie millimétrique, mais là aussi, c'est en préliminaire. Je vais poursuivre avec Euclide et puis la conclusion, j'en ai bientôt fini. Euclide va être lancé en 2022. Il se trouve que je fais partie de cette collaboration, et on s'est très vite rendu compte que les galaxies qu'on avait observées avec Planck, Herschel, Spitzer, Lyra, Malma, etc., étaient en fait assez brillantes. Elles ne sont pas exceptionnellement faibles, très lointaines. Redshift 2, c'est plus très loin pour les instruments d'aujourd'hui. Donc on s'est vite rendu compte que, voilà, ce sont mes étudiants qui ont fait ça, on a mis sur un spectre, hein, vous avez la longueur d'onde ici, puis l'intensité que vous pouvez recevoir sur une caméra. On a fait une sorte de moyenne ici. On s'est rendu compte que ces galaxies étaient très brillantes, elles étaient bien au-dessus de la limite de détection de Euclide dans le visible et dans l'infrarouge. Ça, c'est la limite de détection. Donc avec Euclide, vous pourrez détecter ce qu'il y a au-dessus, pas en dessous, selon le survey qu'on prend. Et donc, on s'est vite rendu compte, on a une sorte de vertige, les données d'Euclide qui vont récupérer des milliards de galaxies vont être truffées de ces structures-là, ces amas de galaxies, à Z égale 2 et au-delà. À ce jour, on ne sait pas comment les détecter dans les données Euclide, parce que vous aurez un ramassis de galaxies, mais elles ne nous diront pas, là c'est un amas, là c'est pas un amas. Donc on est en train de travailler sur comment les détecter à gros redshift. À redshift inférieur à 2, il y a des techniques qui existent et qui sont évaluées avec des simulations, mais à Z au-delà de 2, on est encore en train d'y travailler. Donc il y a des perspectives extraordinaires, voilà, on a encore quelques années avant le lancement en 2022 pour être prêt à analyser les données. JWST, qui est le successeur de Hubble pour la NASA et l'Agence spatiale européenne notamment, lui observe dans l'infrarouge proche et moyen. Et je vous ai mis ici un spectre, longueur d'onde, intensité, et des spectres de galaxies. Et voici la couverture spectrale de JWST. Et on voit qu'on pourra tracer de manière très intéressante le pic stellaire des galaxies et puis quelques molécules interstellaires aromatiques. Là. Donc on est très excité à l'idée d'observer avec JWST. Donc on a fait une proposition qui a été refusée pour l'instant, mais nous ne baissons pas les bras, parce que d'autres opportunités se présenteront, parce qu'on pense que l'on peut, en observant nos galaxies, et puis notamment des raies intéressantes, et puis avoir la partie stellaire, et puis peut-être la partie infrarouge proche en rest frame, enfin réflexion de repos, sonder des structures qui sont à la frontière de cette possible zone entre gaz froid qui arrive et puis zone chaude où la formation stellaire n'est plus vraiment possible. Donc lancement 2022, je crois, pour JWST, beaucoup de temps de préparation. Il se trouve qu'un instrument est vraiment essentiellement français, donc on a des entrées et la communauté française est très, très bien placée aussi. J'ai omis de dire que Euclide est une mission de l'Agence spatiale européenne avec une très très forte contribution française, tout comme l'était Planck. Donc voilà, la France et l'Europe sont vraiment en pole position. Et puis, je vais conclure en évoquant que le fait que de nombreuses observations sont nécessaires, Planck, Herschel, Spitzer, IRAM, ALMA, CFH, etc., s'agissant de ce programme de détection d'amas à grand redshift. Il n'y a pas que ça qui existe, vous avez vu, il y a une littérature très abondante, il y a une compétition aussi très abondante, mais c'est aussi ce qui motive. Donc on espère avoir des résultats plus consolidés d'ici peu. Et puis, la perspective va vraiment s'ouvrir avec Euclide et JWST, tout en continuant avec ALMA et d'autres. SKA a été évoqué aussi, il y a plein de programmes. LOFAR aussi qui étudie ça. Et donc on espère obtenir de nombreuses données pour pouvoir vraiment contraindre les modèles. Et puis... J'en ai terminé pour la partie scientifique. Je voulais profiter de cette tribune pour proposer une conclusion beaucoup plus personnelle, qui est ma dernière slide, qui est que le fait que tous nos travaux scientifiques ont aussi vocation à être diffusés à un grand public. Ici, je crois que c'est un lieu particulièrement emblématique parce que le public est large et ouvert. Et j'ai une expérience assez intéressante il y a quelques semaines à l'Université Paris-Sud où on a accueilli des réfugiés qui venaient d'Afghanistan, Soudan, Érythrée, Mali, Tchad, etc. Et si on m'avait dit, il y a quelques années, que je parlerais du fond cosmologique, c'est quelqu'un qui a pris la photo, ce sont des Afghans, j'aurais pas cru, mais en fait, c'est possible. Donc en fait, on voit aussi que la science peut être aussi un vecteur de rapprochement des peuples, parce que la science fait partie de la culture, et la culture est commune à tous les humains. Et on s'est vite rendu compte, avec ces jeunes gens, qui finalement ont l'âge de mes étudiants, le courant est très vite passé parce qu'en parlant de culture, alors on a aussi parlé de beaucoup de choses, mais je ne vais pas vous raconter ma vie ici, mais en parlant de culture en général et de culture scientifique, ça rapproche les hommes et donc il est bon, nous en tant que scientifiques, de nous rappeler que nous sommes payés par les taxpayers, les contribuables, mais aussi nous avons un devoir et puis une mission de diffuser au public et de partage des connaissances, parce qu'il n'y a pas que dans un sens. L'échange avec les citoyens est très important. Et puis que la science est un jeu collectif, c'est pas juste une personne qui a une bonne idée et qui fait ça tout seul dans son coin, et que notre science et la culture en général a fait du bien à nos sociétés qui sont un petit peu bouleversées, et donc j'espère que la science participe de ça. Aussi, un truc intéressant avec les jeunes, c'est que la curiosité est absolument universelle, elle n'a pas de genre, de culture, de milieu social, et donc c'est un facteur majeur de levier pour avoir une société peut-être un peu meilleure. Et donc voilà, donc, je vous encourage à continuer à participer à ce genre de séminaires publics et puis à impliquer les scientifiques que vous connaissez à en faire parce que c'est, je pense, intéressant pour nos sociétés. Merci de votre attention et bonne soirée.